Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
L'année 2012 marque de part et d'autre de la Méditerranée le cinquantenaire de la fin de la présence militaire française en Algérie. Commencée en 1830, la conquête de l'Algérie, qui prit de longues années, entama en fait une relation complexe, fruit de la colonisation, entre les deux pays, pour s'achever officiellement en 1962 avec les accords d'Évian. Ceux-ci mettaient fin à la guerre d'Algérie, commencée 8 ans plus tôt, en 1954, une guerre longtemps nommée « les événements », n'osant être qualifiée, par la dure réalité du conflit, de guerre d'indépendance. Le musée de l'armée aux Invalides, à Paris, aborde depuis quelques années l'histoire militaire de la France par des expositions tournées vers l'histoire du temps présent. Cette fois, et pour la première fois depuis la fin de la guerre, un musée national, et pas n'importe lequel, le musée de l'armée propose un sujet audacieux par l'examen de conscience qu'il réclame, à savoir le rôle de l'armée française en Algérie 1830-1962, soit donc 132 années de présence française dans un processus très compliqué, celui de la colonisation mais aussi celui de la décolonisation. Il s'agit là d'un vaste sujet, douloureux sujet, mais un sujet traité par les historiens de manière scientifique. Il ne s'agit pas d'apporter un renouvellement scientifique aux travaux historiques, mais de rendre l'histoire de cette présence française accessible à un public large. Un défi de clarté, de rigueur, d'honnêteté intellectuelle, un enjeu pour les mémoires, un hommage aux victimes de tous bords. Les meilleurs historiens et spécialistes français et algériens ont contribué à cette mise en lumière. L'angle d'approche, pour le directeur du musée de l'armée, le général de division Christian Baptiste, ne prétend pas, je cite, « réconcilier les mémoires désunies parce que le musée de l'armée se doit de proposer à tout citoyen le récit des faits, leur enchaînement, leur cause, sans rien occulter, mais sans s'apesantir avec complaisance au risque de blesser inutilement. » Voilà un beau défi et une très belle exposition. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le lieutenant-colonel Christophe Bertrand, conservateur au département contemporain du musée de l'armée. Bonjour, colonel Bertrand.
Bonjour.
Comment est née l'idée originale de cette exposition d'abord ?
Alors l'idée vient déjà parce que le musée de l'armée raconte dans ses salles d'exposition permanente l'histoire militaire de la France du Moyen-Âge jusqu'à 1945, voire au-delà à travers certaines expositions temporaires. Donc pour nous, c'était dans la suite logique de la présentation classique de nos salles. C'est aussi la volonté d'aborder des thèmes qui ne sont pas du tout abordés dans nos espaces permanents ou très peu abordés. Donc le phénomène de la colonisation et de la décolonisation est abordé sur des surfaces assez réduites, de manière très générale, très globale, sans rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et c'est aussi l'occasion de présenter des collections qui ne sont plus présentées au musée de l'armée, et en particulier la collection qui s'est construite autour de la conquête de l'Algérie, qui était présentée il y a à peine quelques années dans nos espaces et qui aujourd'hui ne le sont plus, faute de place. On s'est lancé dans cette aventure parce qu'on avait cette volonté de raconter un pan important de notre histoire militaire du 19e et du 20e siècle, parce que en dehors des deux grandes guerres mondiales, le fait colonial est un fait important
auquel l'armée a participé
du début jusqu'à la fin, et plus particulièrement en Algérie où sa présence fut très importante tout au long de cette histoire. En plus, c'était le moment de parler de cette histoire 50 ans après. L'occasion s'est faite aussi parce qu'il y avait les 50 ans des accords d'Évian, il y avait les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie.
Mais au-delà des commémorations habituelles là en ce moment sur ce sujet, qu'est-ce qui a rendu possible aussi de pouvoir le traiter, j'allais dire, de façon si républicaine ? C'est un peu l'impression que j'ai eue en sortant de l'exposition, c'est d'avoir une vision effectivement assez citoyenne de ces événements compliqués et complexes.
Tout à fait, en fait. Comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, c'est la première fois déjà qu'on raconte cette histoire dans un musée national. Il y a eu des expositions sur l'Algérie pendant l'année de l'Algérie en France en 2003, mais c'était essentiellement des expositions autour des beaux-arts, donc sur l'orientalisme. Donc on n'abordait pas le vrai cœur du sujet. Et là, c'était pour nous, c'était cette occasion parce que 50 ans après, il y a un gros travail historique qui a été mené par des historiens comme Benjamin Stora, Guy Pervillers, qui ont vraiment attiré en fait cette histoire qui est une histoire encore très passionnelle. Beaucoup de mémoires s'affrontent sur cette question en France et en Algérie, entre la France et l'Algérie. Donc pour nous, un travail scientifique qui est important.
Qui a été une bonne base.
Qui a été une bonne base. Donc déjà un sujet qui vraiment rentrait dans l'histoire progressivement. Et puis c'était cette occasion-là qu'on a saisie et qui nous a permis de, avec tout ce travail historique, de nous lancer dans cette aventure.
Vous-même, vous avez connu la guerre d'Algérie ?
Non, je suis fils d'un officier qui a fait la guerre d'Algérie. Donc c'est quelque chose qui a bercé un petit peu mon enfance quand j'écoutais les récits de mon père ou de mes oncles ou de mon grand-père. Donc ça m'a baigné. Et puis en préparant Saint-Cyr, on est un peu dans les collèges militaires imprégnés par cette histoire qui, dans les années 80, un peu structurait encore un petit peu l'imaginaire des futurs officiers.
Dans quel sens, par exemple,
Dans le sens, parce que on était très jeunes, mais la France vivait en paix depuis 20 ans, dans les années 80. L'armée avait pour mission essentielle de défendre avec ses alliés l'Europe face au bloc soviétique. Il y avait des interventions en Afrique, mais c'était mineur. Et c'était la dernière grande aventure de l'armée française. Donc, entre guillemets, les modèles que l'on avait d'officiers venaient de cette génération qui avait fait la guerre d'Algérie, en particulier le plus célèbre d'entre eux, Edith Saint-Marc, et aussi toutes les discussions qu'ils pouvaient avoir.
C'était un sujet donc très présent dans les écoles militaires dans les années 80.
Tout à fait, oui, parce que c'était la dernière guerre menée par l'armée française, donc c'était encore... Et puis il y avait beaucoup d'officiers qui avaient vécu ces événements, qui étaient en service dans l'armée. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu de l'univers dans lequel on se construisait et on s'identifiait par rapport à ces événements.
Alors revenons à l'exposition, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue, si vous avez participé en tant que commissaire à cette exposition.
Oui.
Donc là, on voit aussi que ce sont ceux qui ont mis en place cette exposition, ce sont aussi des gens qui n'ont pas été en contact direct avec cette histoire. Mais par formation et puis par histoire familiale, comme beaucoup de Français, nous avons beaucoup de liens avec l'Algérie et il y a de nombreux liens entre l'Algérie et la France. L'exposition est divisée en deux temps et deux espaces, 1830-1913, et puis 1913 ou 1914-1962. Donc sur ce temps long de l'Algérie et de la France, de cette relation, voici les deux ruptures chronologiques auxquelles vous avez pensé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, en fait, au départ, on est confronté à une situation géographique des espaces, donc on s'adapte au terrain. Donc on a hérité pour organiser nos expositions temporaires de deux surfaces de 300 mètres carrés reliées par une passerelle. Donc il faut adapter le discours à la situation,
à l'espace.
Donc on l'a choisi en discutant avec les historiens qui nous ont accompagnés dès le début. Jean-Charles Geoffrey, le général Delmas, ancien directeur des services historiques de l'armée de terre. À quel moment on allait couper cette histoire ? Et l'événement de la Première Guerre mondiale est un événement majeur dans notre histoire de la France, de l'Europe et du monde. Et c'est un événement aussi important dans cette histoire entre la France et l'Algérie, puisque ça marque aussi, de manière schématique, parce qu'on peut remonter un petit peu quelques années avant, la naissance d'une structure plus efficace du nationalisme algérien, parce que vous avez énormément d'Algériens qui ont fait le voyage d'Algérie vers la France, comme soldats dans l'armée d'Afrique, ou comme travailleurs émigrés, puisque beaucoup d'Algériens sont venus remplacer les Français qui étaient partis au front, donc les remplacer dans les usines et dans les campagnes. Donc il y a une rupture, c'est-à-dire, il y a eu toujours l'armée d'Afrique qui est intervenue pendant les campagnes du Second Empire, mais là, c'est vraiment de manière massive, où il y a vraiment un changement dans le flux. Avant, le flux se passait essentiellement de la France vers l'Algérie. Là, on a un flux qui est inversé et qui va de l'Algérie à la France, avec donc des Français d'origine musulmane qui partent et des Français d'origine européenne aussi qui partent comme servir et combattre aux côtés de l'armée métropolitaine sur les fronts ouest ou en Orient. Voilà donc pourquoi on a choisi cet événement structurant pour organiser nos espaces et le discours.
Dans ce premier espace consacré, on va dire, au 19e, on n'y trouve pas seulement des tableaux. On commence par une magnifique maquette. Et puis, il y a quelques trésors que vous avez réussi à faire venir, parce que c'est une exposition qui est le fruit d'un travail collectif sur lequel vous allez sûrement nous expliquer comment justement les historiens ont travaillé. Mais je reviens à mon ouverture. Il y a cette très belle maquette d'Alger. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas seulement trouver des documents, on va trouver des objets, des toiles. Il y a une grande diversité des objets présentés. Comment vous avez choisi justement, ou c'est un savant dosage dans cette première salle entre les uniformes et les pièces de collection, pour illustrer la conquête, si on prend juste la conquête, le début, qu'est-ce que vous avez présenté ?
Alors, en fait, on avait la chance, quand on s'est engagé dans cette aventure, d'avoir une collection importante sur cette période-là, structurée autour des mannequins, des uniformes, de simples soldats comme d'officiers généraux et de personnalités comme le général Bugeaud et Abdelkader. Donc, une collection historique qui est présente au musée de l'armée depuis le début du 19e, qui venait directement d'Alger par le don d'officiers ou par les prises de guerre, puisque les objets présentés, pour parler d'Abdelkader, la plupart viennent de la prise de la Smala. Donc, c'est des objets qui ont...
Il y a des plans, il y a un plan... C'est drôle.
Ah oui, oui. Alors, il y a des archives qui nous appartiennent. Il y a ce fameux plan dont vous parlez, la maquette d'Alger, qui a été réalisée en fait en 1941 à l'initiative du général Weygand, qui souhaitait, dans le cadre de la semaine historique à Alger, représenter Alger telle qu'elle était en 1830, au moment où les Français posent le pied. Donc, cette maquette a été réalisée à partir des plans faits par les officiers du génie à l'époque. Donc, c'est une maquette qui était exposée au musée Franché-Lespéré d'Alger, qui était le musée militaire d'Alger, qui a été créé au moment du centenaire en 1930. Et qui a, en 62, bien sûr, a rejoint le musée de l'armée, comme la plupart des collections qui étaient présentées dans ce musée. C'est aussi des tableaux d'inspiration orientaliste avec des différentes phases des premiers temps de la conquête, avec ces tableaux sur la prise d'Alger. Et puis, c'est un partenariat important avec l'autre musée, le musée de Parisien, le musée du Louvre, avec les chasseriaux qu'on présente pour illustrer un petit peu la naissance ou le développement d'un courant, le courant de l'orientalisme. C'est des tableaux de Versailles. Alors, on aurait pu emprunter des tableaux un peu plus majestueux, un peu plus importants qui sont présentés à Versailles dans la salle consacrée à la conquête de l'Algérie. Mais bon, les surfaces étaient quand même très réduites. C'est aussi des tableaux qui viennent d'autres musées de province, comme Nancy, comme Narbonne, comme Grenoble. Voilà, c'est l'occasion. En fait, l'occasion, l'exposition permet aussi de rassembler des œuvres qui sont éparpillées, qui appartiennent à différents musées, et donc de compléter les collections qui sont présentes au musée de l'armée. Donc voilà, c'est... Alors après, il y a un savant dosage qui est fait en fonction de l'intérêt que peut porter le public, de varier aussi les différents supports, d'apporter des informations qui sont importantes, qui sont à la fois des informations sur la représentation officielle de cette guerre, sur les traités qui sont signés à l'époque, sur les documents administratifs qui structurent progressivement cette Algérie. Aussi ce dosage qui est fait avec le scénographe, puisque c'est un travail aussi à la fois avec des historiens qui nous aident à sélectionner ces objets, et aussi le travail avec le scénographe, parce que l'objectif du scénographe, c'est d'essayer d'offrir au public des objets qui soient accessibles, voilà, avec une facilité de déplacement et de regard, ne pas soumettre le visiteur à trop de choses ou qui risquerait de le perdre dans ce dans
qu'est-ce qu'on vous a prêté d'Algérie pour illustrer cette période, parce que vous avez aussi fait venir des pièces d'Algérie,
on aurait souhaité, on n'a pas pu, parce que cette exposition elle a été construite en moins d'un an. On aurait souhaité, par exemple, avoir la selle d'Alcader.
D'accord. Et je croyais qu'il y avait un des tableaux qui venait quand même.
Non,
de...
non.
En fait, non. D'accord.
Non. La selle, c'est trop... Après, vous savez, les relations sont très difficiles avec l'administration algérienne qui est très lourde, etc. Il aurait fallu 2-3 ans. On aurait pu certainement obtenir ces objets, mais il aurait fallu s'y prendre
plus avant. Ce n'est pas par volonté que ça ne s'est pas fait.
Au contraire, on aurait souhaité présenter des objets qui viennent d'Alger. Ou...
Qu'est-ce que c'est qu'une conquête, puisque nous avons un militaire devant nous?
Alors, une conquête, c'est d'abord une décision politique. Il faut toujours rappeler qu'une armée obéit à un pouvoir politique. Donc, à un moment donné, on décide, en 1830, d'aller en Algérie pour des raisons, Charles X, de prestige, en tout, de prestige intérieur, parce que bon, la situation intérieure est mauvaise pour Charles X. Donc, voilà, on décide de se lancer dans une aventure qui avait déjà été plus ou moins pensée bien avant. Et Napoléon Bonaparte, en 1808, avait aussi envoyé un officier pour faire des reconnaissances, pour reconnaître l'endroit exact où on pourrait débarquer. Donc il y a toujours une intention d'aller de l'autre côté. Et puis à un moment donné, cette décision est prise. Donc c'est le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquent en Algérie. Et puis là, en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait pas quoi faire de cette conquête. La restauration est supprimée.
Même, ouais.
La monarchie de Juillet remplace la restauration. Le pouvoir politique hérite de cette situation. On hésite encore. Pendant quelques années, on a hésité. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on va se lancer, on va aller au-delà de l'occupation littorale, on va aller vers l'intérieur des terres et conquérir l'ensemble de l'Algérie. En fait, il n'y avait pas vraiment au départ d'intérêt économique, à la différence de d'autres colonies. Là, les choses se sont succédées les unes après les autres, des hésitations. Et puis après, chaque régime a hérité du boulet du précédent. Et puis au lieu de se retirer, comme c'était prévu aussi, ben, on a préféré continuer. Et puis le contexte de l'époque a fait qu'on a trouvé un intérêt à occuper l'Algérie.
Les historiens disent que c'est une conquête d'une rare violence.
Oui, parce que là, on est dans un schéma différent. On n'est plus dans des combats centre-Europe. Là, on vient s'installer déjà de l'autre côté de la Méditerranée, dans une culture qui est totalement différente. Et on est obligé aussi de faire la place, parce qu'à un moment donné, on se dit, cette partie de la Méditerranée peut devenir une colonie de dépeuplement, on peut l'utiliser, on peut envoyer des gens, on peut la transformer en une sorte de grenier à blé. Donc, ben, il faut faire la place. Il y a une résistance qui commence aussi à se mettre en place, qui est forte, qui est structurée par Abdelkader. Donc, c'est un combat. Voilà, il faut qu'il y en ait un des deux qui cède la place. Donc, elle est violente, parce que aussi, on a du mal à saisir Abdelkader dans les premiers temps. Le seul moyen aussi de le combattre, c'est de s'attaquer à ses soutiens, donc aux tribus qu'ils soutiennent, sa logistique aussi. Donc voilà, on emprunte des coutumes turques de la razzia, donc on détruit tout pour faire plier, au bout d'un moment, faire plier la volonté d'Abdelkader. Et
qui résiste, en fait.
Qui résiste bien, qui est soutenu par le sultan du Maroc. Donc, progressivement, on y arrive. On fait venir de plus en plus d'effectifs. Général Bugeaud restructure la mer d'Afrique, adopte une tactique adaptée au combat mené par, qui est un combat de guérilla mené par Abdelkader. Et puis, il y a une volonté à tout prix de s'emparer de ces terres. Donc, voilà, on va jusqu'à utiliser de la violence, jusqu'à s'attaquer, aux populations locales.
Civils,
voilà, donc les chapitres des emmurades, des enfumades, donc des gens qui sont
très violentes, quasiment.
Voilà, c'est des guerres comparables à celles que la main
des
française.
Crimes de guerre.
Tout à fait. Bon, certains historiens, en particulier Jacques Frémaux, je veux dire, assimilent ces exactions à certains épisodes de cette conquête, à des crimes contre l'humanité. Mais là, à l'époque, on est au 19e siècle. Vous avez un général Bugeaud qui est un ancien des guerres d'Espagne. Donc, la guerre d'Espagne aussi, c'est une guerre violente. Donc voilà, on est dans un même schéma. C'est vrai que de nos jours, on serait...
On les qualifierait comme ça.
Parce qu'on a... qu'à l'époque, il y a déjà des voix qui s'élèvent contre la façon dont l'armée française mène cette guerre. En particulier, l'un des fils du maréchal Ney, qui est à la chambre des pairs, je crois, s'insurge et demande des explications suite à des épisodes violents, en particulier l'épisode des grottes de Dara, où il demande des explications au ministre
sur ce qui s'est passé
au ministre de la Défense des armées à l'époque, qui est le maréchal Soult. Voilà, donc il y a quand même déjà une prise en conscience. La particularité de cette guerre en Algérie.
Comment est-ce que la Troisième République installe la colonisation ?
Alors en fait, au moment où Abdelkader se rend, 1847, jusqu'à l'avènement de la Troisième République, vous avez un épisode important qui est la Seconde République, c'est surtout le Second Empire, et Napoléon III, qui continue la conquête. La conquête officielle se termine en 1847, juste avec la reddition de la Kabylie. Mais à partir de ce moment-là, l'état d'esprit va un petit peu changer. Il est influencé par un cercle de Saint-Simoniens.
Oui, c'est important. Et puis, il y a la politique arabe de Napoléon. Voilà. Allez-y, non, parce que ce cercle Saint-Simonien a son importance.
Voilà, donc il influence le courant Saint-Simonien très fort à ce moment-là. Et il s'exerce aussi sur cette terre et par le biais d'Ismaël Urbain, qui est un personnage important, qui va l'influencer, qui va l'orienter vers une sorte de politique, comme il appelait, de royaume arabe, où on essaye, tout en, bien sûr, en maintenant la présence et la domination de la France, de respecter les colons et respecter les Algériens, c'est-à-dire faire en sorte que les deux communautés puissent vivre sous une même autorité qui est celle de l'Empire, celle de l'Empereur. Donc une volonté d'adoucir et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de... On n'est plus dans l'assimilation, voilà, une sorte de partenariat entre les deux, le protectorat. Donc une volonté de respecter l'autre. Alors en plus, il y a cette politique-là est aussi influencée par une partie de l'armée, pas par toutes, mais une partie de l'armée qui est très présente sur le territoire algérien. L'armée est responsable de quasiment 90% du territoire. Ce sont des officiers qui représentent l'État français auprès des chefs du tribu à travers les bureaux arabes. Donc voilà, il y a vraiment une volonté après avoir utilisé la violence et avoir conquis cette partie de l'espace.
Il y a presque un rêve utopique.
Voilà,
là
il y a
aussi
une sorte de rêve utopique qui sera balayé par la défaite de Sedan et la fin du Second Empire. Et là, paradoxalement, la Troisième République, parce que Napoléon III parle d'obligation civilisatrice aussi de la France, la Troisième République, elle, va changer de politique, va mettre fin à ce régime qualifié de régime du sabre, parce que, c'est des militaires qui dominent l'Algérie, c'est le gouverneur général de l'Algérie, c'est un militaire, la présence militaire est très importante, les colons manifestent un peu leur hostilité, parce qu'ils savent que, sous le Second Empire, ces militaires ont empêché la colonisation de se propager, en préservant les intérêts des tribus arabes. Et là, avec la Troisième République, c'est la fin du régime du sabre, et puis c'est l'avènement d'une colonisation qui va être de plus en plus intense, avec un accaparement des terres, et puis une arrivée massive d'Européens du bassin méditerranéen qui vont s'installer. Et là, on change l'univers et on s'inscrit dans ce qui fera un peu le drame de l'Algérie, sachant que déjà depuis 1848, cette terre est une terre française, ce sont des départements. Donc déjà, il y a une différence entre l'Algérie et l'Indochine. Donc déjà, l'Algérie s'inscrit dans un territoire commun avec la métropole. Mais là, on est dans une phase où, avec la Troisième République, on privilégie, en schématisant, les intérêts des colons au détriment des intérêts des Algériens.
dans cette première période 1830-1914, il n'y avait pas de sujet tabou, on va dire. C'est assez traité depuis longtemps par les historiens de la colonisation. Pour la deuxième phase, on va dire, de l'exposition, 1914-1962, là, il y a de nombreux sujets qu'on n'abordait pas, que les historiens abordent depuis 12 ans, par là, à peu près. C'est porté auprès du grand public par de grands historiens, comme vous l'avez cité, Benjamin Storam et d'autres. Et je sais que pour cette exposition, vous avez respecté un travail collectif avec les historiens, d'avoir pris soin de ces différents courants historiques. C'est faire preuve quand même d'une volonté, en tout cas, de donner vraiment un angle pluridisciplinaire et vraiment pluriel sur les approches du conflit. On ne s'attend pas forcément à ce que ce soit l'armée qui donne cette leçon quand même. Comment les historiens ont réagi à votre demande ? Et comment vous vous êtes arrangé de leurs travaux ? Parce que c'est un exercice périlleux.
Oui, tout à fait. Vous savez, surtout sur cette partie-là qui est très sensible, où, oui, où le moindre mot a
des répercussions, immédiates.
Nous avions pas cette compétence, sachant qu'on était très conscients que ça serait difficile. Donc, bon, naturellement, bien sûr, on se tourne vers les historiens qui sont au départ un petit peu surpris. Je veux dire, le musée de l'armée, donc tout de suite, il y a une image particulière qui s'en dégage. Donc, c'est vrai que parfois, les premiers contacts n'ont pas été forcément réussis parce que, vous voyez, cette appréhension, l'institution militaire, le regard militaire sur cette période-là risque d'être un petit peu un regard un peu simplifié. Voilà, donc il y avait certaines appréhensions. Mais rapidement, donc, on leur a expliqué un petit peu la manière dont on voulait aborder ces choses-là, tout simplement en respectant le travail historiographique actuel,
accompli,
voilà. En essayant, bien sûr, comme vous le disiez, d'avoir plusieurs voix d'historiens sur ce sujet-là, parce que il y a quand même des sensibilités qui se dégagent, même s'il y a quand même une unité, entre guillemets, d'action de ces historiens. Sur ce sujet-là, je veux dire, ont conscience d'être sur un sujet très difficile, donc une sorte de communauté qui se crée, qui fait que, bon, voilà, en fait, ils sont en opposition, mais en même temps, ils travaillent avec les mêmes objectifs. Donc, vous voyez, on fait intervenir Benjamin Stora, on fait intervenir Raphaël Branche, qui a écrit un livre sur la torture dans l'armée française. Donc, voilà, on aborde des sujets. Un livre qui, à un moment où il est sorti, a entraîné la foudre de certains officiers généraux à la retraite qui ont vécu ces événements et qui étaient
qui ont pris position dans le monde,
qui ont écrit un ouvrage, un livre blanc. Voilà, donc ils montraient leur hostilité sur la thèse adoptée par
Raphaël Branche, que je rappelle en résumé. Elle a étudié les documents d'archives sur la torture. C'était son travail. Et sa conclusion, c'est que c'est pas seulement pour obtenir des aveux ou du renseignement, c'est d'abord pour montrer. C'est une tactique. Enfin, je ne sais pas.
C'est
d'abord une tactique militaire pour montrer, pour montrer qui est le plus fort.
Voilà, alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Après, bon, chacun a son point de vue, mais il était important
pour
nous.
Mais c'est la première à avoir traité ces sujets.
Tout à fait.
C'était une jeune historienne, elle avait à peine 30 ans.
Oui, hein,
Elle est très reconnue.
Très reconnue.
Mais c'était extrêmement courageux à l'époque.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Dans les années 90.
Bon, le phénomène de la torture avait déjà plus ou moins parlé pendant la guerre d'Algérie. Dans les années 70, à un moment où le général Massu en parle, et on montre un extrait d'une interview où il parle de la torture.
Concrètement, un sujet comme ça, dans l'exposition, c'est traité comment ?
Alors déjà, bon, c'est abordé, on a abordé dans la première partie de la violence. C'est abordé, c'est incontournable. Il aurait été impensable qu'on fasse une exposition sans parler de ce sujet-là, autant pas le faire. Donc là, on nous attendait au tournant. Ça faisait partie un peu du cahier des charges du directeur, avec cette volonté de parler de tout sans s'appesantir. On abordait le thème de la torture, on n'allait pas faire une exposition sur la torture. Donc on l'a abordé, certains nous ont reproché pourquoi vous n'avez pas montré la GIGN, etc. Bon, la GIGN, il aurait fallu, ça, vous savez, c'est uniquement une sorte d'appareil qui permet d'alimenter un poste radio dans l'électricité. Alors il aurait fallu faire des montages, etc. Ça aurait été sordide.
On ne tombait pas non plus dans le côté morbide.
On n'avait pas montré les instruments de torture, etc. On s'est dit, on va montrer ça à travers des images, parce que les images de la torture sont extrêmement rares,
voire quasiment inexistantes. Moi, je ne savais même pas qu'on en avait.
Avec le conseil de Sébastien Denis, qui est un des commissaires d'exposition, qui est un spécialiste de l'image pendant la guerre d'Algérie, donc ils nous ont rappelé qu'à la BNF, il y avait un fond de charbonnier, d'un photographe, donc qui est parti en Algérie dans les années 57 et qui a photographié ce qui se passait, et entre autres, à un moment donné, il y a un officier qui est sur la photo, dont on a caché bien sûr le visage et les insignes, qui le convie à assister à une séance et donc il l'autorise à prendre des photos. Donc il y a 6 photos qui sont à la BNF, qui n'ont jamais été montrées, en tout cas dans un cadre historique. Ils ont été montrés, je pense, une fois dans une galerie en tant que œuvre.
œuvres de photographes.
Œuvres de photographes, mais là, on les replaçait dans leur contexte. Et elles avaient une signification forte documentaire. Donc pour nous, c'était important parce que c'était des.
Ces vraiment, trois photos noires et blanches ne sont pas très grandes.
Elles ne sont pas très grandes, donc il y en a six. Bon, on en a sélectionné trois. Les trois autres sont identiques, sont prises au même endroit. Donc voilà, pour nous, c'était voilà, le message fort. Montrer ce qui se passait dans la plupart des cas à Alger ou dans l'Algérie, sur la totalité du territoire, des séances voilà, d'interrogatoire, comme on les appelait à l'époque, très poussées, séances de torture. Et puis on a essayé aussi de le montrer à travers le regard d'un général, le général Massu et le Jules
Roy. Toujours sur ce thème de la torture.
Surtout sur ce thème de la torture, le point de vue d'un général qui parle d'efficacité et le point de vue d'un romancien, un ancien officier, parce que Jules Roy était officier. Il a quitté l'armée comme colonel après la guerre d'Indochine, où là, lui, il se place sur un plan éthique. Donc voilà, la confrontation, les deux grands thèmes, je veux dire, qui structurent le débat autour de la torture. Donc pour nous, c'était important de présenter ces deux témoignages. Et le livre, la couverture du livre d'Henri Alleg, intitulé La question, qui a été le révélateur, qui a entraîné un peu bon, toutes les polémiques qui se sont passées.
Puisqu'à l'époque, il publie le livre.
Il publie en 58, donc voilà.
C'est impressionnant et c'est très touchant de voir réunis sur le même mur.
Voilà, tout à fait.
Tous ces objets. Franchement, d'habitude, même autour d'une table dans une famille, on n'en parle pas. Et là, tout est exposé.
Alors, on a voulu rester
C'est assez touchant, quand même.
On a voulu être très généraliste. On n'est pas rentré dans les détails, etc. Parce que
C'est même discret, la place du thème sur la torture.
Tout à fait, oui.
C'est un petit peu. Les images sont un peu plus hautes. C'est pas que ce soit inaperçu. Ça y est, on le voit. Mais c'est pas non plus le focus de l'exposition.
Tout à fait.
Mais comme vous l'avez dit, ça méritait d'y être. C'était impensable qu'elle ne s'y soit pas.
C'est incontournable. Alors qu'on n'a pas créé une scénographie
non plus particulière pour ça.
Parce qu'on a en même temps aussi la volonté d'intégrer tout ça dans une histoire qui est compliquée. Et ça, c'est un des éléments de cette longue histoire. Et ce n'est pas le seul élément.
Voilà. Et c'est assez efficace. Voilà. Je veux dire, je crois qu'on comprend, pour ceux qui connaissent un petit peu la question d'Alleg, ou bien bon, les trois photos, peut-être que ça suffit pour rendre, j'allais dire, justice. C'est difficile, mais rendre compte de toutes les voix qui se sont exprimées à ce moment-là.
Tout à fait.
Parce que je crois qu'on ne le sait pas, mais en fait, tout le monde s'est exprimé à ce moment-là.
Oui,
on ne l'a pas forcément entendu.
Oui, tout à fait. Non, le phénomène de la torture, pas un phénomène qui a été dévoilé par Raphaël Manche, un phénomène qui, tous les 10-20 ans, ressort.
Bien sûr.
Pendant la guerre d'Algérie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, après avec le débat autour de la thèse de Raphaël Manche, les propos d'Ossarès aussi qui ont fait ressurgir. Donc c'est quelque chose, quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle de torture, à un moment donné, alors on aurait pu faire, comme je vous dis, une séquence plus longue, mais ça n'aurait pas eu de sens. Mais c'est, je veux dire, c'est un phénomène qui est incontournable et qui, entre guillemets, aussi a pollué l'institution militaire très longtemps. Et à un moment donné, bon, après, on présente les choses. Vous avez beaucoup d'officiers qui ont vécu ces événements, cette guerre, et qui sont critiques en disant c'est un phénomène, certes, mais ça, moi, je ne l'ai jamais connu, je n'en ai jamais entendu parler, etc. Donc il y avait aussi, parfois, la part de certains, un déni qui peut être justifié. Parce que, souvent, on a l'impression que, on montre du doigt toute institution militaire. Bon, l'objectif, ce n'est pas ça, c'est de montrer qu'il y a eu un phénomène qui a existé. On fait intervenir le général Massu parce que le général Massu s'est exprimé dessus, mais on pointe le doigt sur quiconque. Bon, sur les photos, on a bien caché les visages et l'ensemble des protagonistes. C'est avant tout dire que c'est quelque chose qui a existé et qui est incontournable de cette histoire.
D'après le livre de Benjamin Stora, Algérie 1954-1962, lettres, carnets et récits des Français en Algérie dans la guerre, aux éditions Les Arènes, à propos de la torture, il est dit qu'elle fut pratiquée en Indochine mais aussi en Algérie avant le déclenchement de la guerre. La torture est dénoncée dès le début de l'année 1955 par l'écrivain catholique François Mauriac et le journaliste Bernard Bourdet. Cependant, l'armée justifie son utilisation au nom de la guerre contre-révolutionnaire et de la nécessité de faire barrage au communisme. Elle s'appuie sur la nécessité de trouver des renseignements pour endiguer les attentats perpétrés dans la capitale algérienne. À partir de 1957, les dénonciations, de plus en plus nombreuses de la torture, cristallisent les oppositions à la guerre d'Algérie. Les publications sont clandestines, les livres interdits, mais sont autant de témoignages qui alimentent le débat. L'histoire d'Henri Alleg est bien connue. Henri Alleg, directeur du journal Alger Républicain, entre dans la clandestinité. Arrêté en 1957, il est torturé au domicile de son ami Maurice Audin, arrêté la veille et torturé à mort. Lui aussi torturé, il rédige en prison son fameux livre « La question », dissimulant les pages écrites et les transmettant à ses avocats. L'ouvrage est publié aux éditions de Minuit et aussitôt interdit en mars 1958. 14 jours plus tard, il paraît en Suisse. Il y a un autre événement comme ça, incontournable, dont vous avez aussi parlé dans cette exposition. Nous sommes là dans un studio qui est au bord de la Seine, et c'est les événements malheureux d'octobre 61, où dans la Seine qui coule sous nos yeux, ont été jetés à la Seine, et beaucoup se sont noyés. Des populations algériennes de Paris venues manifester pacifiquement, et ça s'est mal tourné. Ce sont des événements malheureux, là aussi, d'octobre 61, on ne s'attendait pas forcément à ce que l'armée pointe du doigt un événement comme ça.
C'est-à-dire que...
Surtout qu'après, effectivement, il y a eu les nuits, il y a eu les enfermements, etc.
Après, on est resté sur ces deux événements qui sont quand même très symboliques de cette histoire, et en particulier de cette histoire en France, puisque ces événements se passent en France. Alors c'est vrai qu'au départ, on est quand même dans une histoire qui se passe en Algérie, avec l'armée française. Là, ce sont des événements qui sont périphériques à l'action de l'armée française, mais en même temps, ce sont des événements qui sont structurants de cette histoire et qui ont un impact, puisqu'ils ont un impact sur l'opinion publique française, fort, puisqu'à partir de ce moment-là, il y a quand même un basculement de l'opinion française en faveur d'un désengagement total de la France d'Algérie. Donc ça, c'est comme on parle aussi de la pression internationale qui est de plus en plus forte. Donc ce sont des événements qui sont certes périphériques dans cette histoire, mais qui sont indispensables aussi pour comprendre les événements se sont enchaînés. Alors on aurait pu aussi parler de l'action du FLN en France qui a été forte et des luttes entre le FLN et le MNA.
On
en parle, mais bon, après on ne s'étend pas dessus. Mais ça fait partie aussi des événements qui sont importants pour comprendre toute cette histoire.
C'est ce qui jalonne l'histoire non dite, non pas qu'elle soit cachée, mais là, justement, on a les jalons qui ressortent au grand jour
pour
comprendre les différentes phases du conflit, et surtout celui de la guerre d'Algérie, l'intervention de De Gaulle. Bon, on rentre après dans des choses un peu plus pacifiées, mais ça a été compliqué aussi.
Oui, oui.
Ça, c'est des mots compliqués pour l'Algérie. Qu'est-ce que c'est qu'une pacification ?
Oui, alors...
Est-ce que vous pourriez expliquer ça ?
J'oserais pas, parce que c'est des termes qui sont compliqués. Qui sont à la fois, donc on nous a reproché de mettre des guillemets à pacification, parce que maintenant le terme de pacification n'a plus le même sens que le mot pacification employé pendant la guerre d'Algérie.
Qu'est-ce que ça voulait dire pendant la guerre d'Algérie ?
Pour la guerre d'Algérie, c'était un des aspects de la conduite de la guerre par l'armée française, c'est-à-dire c'était le côté, entre guillemets, le côté positif, c'est-à-dire celui d'essayer de remplacer une sous-administration, c'est-à-dire d'apporter au fin fond du Djebel des éléments importants, structurants, l'école, les médecins, apporter le bien-être, entre guillemets, français qui a été absent pendant des années, qui a été oublié pendant des années. Donc c'est ce volet-là, c'est ce côté civilo-militaire qu'on retrouve aujourd'hui dans l'action des forces françaises à l'extérieur. Voilà cette aide qu'on apporte à la population. Et en même temps, derrière ça, il y a une volonté aussi.
Il y a une volonté militaire.
Il y a une volonté de conquérir les cœurs, de faire en sorte que ces gens-là soient plus des soutiens de l'action de l'armée française et de la politique de l'Algérie française que des soutiens du FLN et de l'ELN. Donc voilà, il y a une lutte entre la France et les mouvements de libération, une lutte autour de la population. Donc ça fait partie aussi de cette stratégie d'enrôler, de conquérir les cœurs, à travers aussi la propagande, la guerre psychologique. Donc il y a toute cette phase, cette première phase de la guerre d'Algérie entre 54 et 58 où là, on utilise des méthodes qui ont été commencées à être appliquées pendant la guerre d'Indochine.
Oui, on tire des leçons,
voilà, qui sont reprises, qui sont améliorées. C'est-à-dire les échecs de la guerre d'Indochine conduisent aussi à mener cette politique-là, cette stratégie-là. Voilà ce côté-là de pacification, alors que de nos jours, certains historiens, beaucoup d'historiens, utilisent le terme pacification pour qualifier l'ensemble de la manière dont l'armée française a mené cette guerre, c'est-à-dire à la fois les aspects de soutien à la population et en même temps des aspects militaires intenses, des combats menés contre...
Des corvées de bois, enfin tout ce qui allait avec.
Etc., les camps de regroupement, les camps d'internement.
Voilà,
donc la pacification n'a plus de ce terme que l'armée française a employé, il a pris le terme global de la manière dont, à ce moment-là, on menait la guerre d'Algérie.
Voilà, c'est un type de guerre.
Voilà, c'est un type de guerre.
Qui porte le nom de pacification.
Voilà, c'est pacification.
Donc, c'est un peu ça le.
Voilà, c'est-à-dire instaurer la paix, c'est-à-dire en fait.
Ça, c'est l'argument.
L'objectif, c'est.
L'objectif, c'est la guerre.
C'est la guerre et c'est casser toute forme de résistance.
Voilà.
Alors, beaucoup de gens sont étonnés qu'on mette des guillemets, mais pour nous, ce terme-là, maintenant, a changé de signification. Il n'a plus le même sens que celui qu'on employait à l'époque dans la guerre d'Algérie.
Autre sujet compliqué, celui de l'OAS.
Oui.
Celui des Français qui avaient choisi que l'Algérie ne devienne pas indépendante au prix de tous les combats, y compris les attentats contre le général de Gaulle et contre des civils ou des militaires du FLN ou des populations civiles algériennes ou des populations civiles de colons à leur côté. Là encore, il y a une affiche qui est présentée, mais c'est aussi un thème que vous abordez parce que c'est aussi un sujet, là encore, on en parle, mais pas complètement. Hein.
Tout à fait, surtout. Alors, l'OS, c'est pas forcément lié à l'institution militaire, mais c'est parmi les gens qui ont participé à l'OS, beaucoup étaient d'anciens officiers, et l'un de ses chefs est le général Salan, qui est un ancien commandant en chef des forces françaises en Algérie. Donc, c'est aussi de montrer qu'une partie des officiers qui ont servi et qui servent la France depuis longtemps, depuis la guerre de 14-18, mais la plupart des officiers de cette génération ont commencé leur combat pendant la campagne de France, pendant la résistance. Certains ont été internés, comme le colonel Jean-Pierre, Édith Saint-Marc, dans les camps allemands. C'est la guerre d'Indochine. Donc, c'est des officiers qui mènent cette guerre, une guerre depuis longtemps, qui rentrent dans un cycle de guerre de décolonisation. Et là, quand ils arrivent, ils ont perdu l'Indochine, quand ils arrivent en Algérie, ils veulent plus que ce qu'ils ont vécu en Indochine se reproduise, que des gens soient abandonnés. Il y a aussi la lutte contre le communisme. Là, on est quand même dans un combat idéologique fort. C'est-à-dire qu'à la fois, on est un combat de décolonisation classique, mais en même temps, on vient se greffer un combat entre le communisme et pour schématiser le capitalisme. Donc là, il y a ces officiers-là qui participent à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 58 parce qu'ils sont persuadés que leur combat va continuer. L'Algérie restera française. Progressivement, le général De Gaulle change d'orientation. Donc, ils ont l'impression d'être trahis. En tout cas, pour certains, d'être trahis. Donc, c'est le putsch dans un premier temps. Et puis, l'échec du putsch entraîne le choix de ces officiers-là de continuer leur combat pour l'Algérie française. Bon, ce combat, ils ne peuvent continuer que dans la clandestinité et dans le terrorisme. Et ils structurent et ils s'engagent dans l'OAS. Et ils mènent ce que l'OAS a tenté de mener, c'est-à-dire un combat des dernières minutes, un combat, comme disait le général, de soldats perdus qui veulent à tout prix que l'Algérie...
Et d'une extrême violence.
Et d'une extrême violence, tout à fait. À la rencontre de Charles de Gaulle, à la rencontre de la population européenne aussi, à la population algérienne. Donc voilà, une politique de brûlés jusqu'aux boutistes parce que voilà, ils sont persuadés que pour eux la seule issue c'est que l'Algérie reste française. Donc on l'évoque parce qu'une partie de ces officiers, partie des personnages qui ont structuré l'OS viennent de l'armée.
D'après le livre de Benjamin Stora, Algérie 1954-1962, lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre, aux éditions Les Arènes, il est dit à propos de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Après le discours sur l'autodétermination du général de Gaulle, une partie des cadres de l'armée s'éloigne de la politique suivie par le président de la République. Certains officiers veulent renverser le pouvoir et le renverser par un gouvernement favorable à l'Algérie française. Mais la semaine des barricades, en janvier 1962, et le putsch des généraux du 22 au 25 avril 1961 sont des échecs. Du coup, certains officiers rejoignent les rangs de l'OAS, créé en 1961 à Madrid. L'organisation de l'armée secrète, OAS, s'implante en Algérie, où elle trouve le soutien de la population européenne. Elle commet plusieurs attentats et assassinats et tente à plusieurs reprises de tuer le général de Gaulle. Plus de 2000 personnes ont été tuées par l'OAS et plus de 5000 ont été blessées. Eh oui, donc vous en rendez compte
également.
Il y a un autre sujet qui est celui des harkis. Cette fois, c'est les combattants algériens qui travaillaient pour l'armée française qui ont été laissés sur place au moment où l'armée est partie après les accords d'Évian, contrairement à ce qui avait été promis. Dans tout le parcours de l'exposition, il y a à peu près une quarantaine de moniteurs avec des vidéos, etc. Donc l'image est très, très présente. Quelle est l'image des harkis que vous avez choisi de montrer ?
La deuxième partie structurée autour de l'image. On a 117 archives filmiques de 2 à 3 minutes qui viennent de l'INA et de le CPAD. Et nous avons consacré 2 moniteurs, à peu près 8 archives, sur les harkis. Premier moniteur qui est consacré donc à l'engagement de plus en plus fort des harkis aux côtés de l'armée française. Il faut savoir qu'à un moment donné, entre 59 et 61, au moment où l'armée française mène travers le plan Châle, une guerre sans merci, je veux dire une guerre à outrance contre la LN. Elle arrivera donc à détruire toute forme d'opposition de la LN. Plus de la moitié des 500 000 hommes sont derrière qui le service militaire ne permet plus d'avoir des effectifs importants. Pour mener ce type de guerre, pour quadriller l'ensemble de l'Algérie, c'est à peu près deux fois la France, donc il faut des hommes. C'est à ce moment-là qu'on engage énormément de soldats, qu'on appelait soldats supplétifs, harkis, aux côtés de l'armée française. Même si de Gaulle a toujours à ce moment-là refusé, interdit l'engagement de ces soldats, les autorités militaires de l'époque ont préféré pas obéir aux ordres et d'engager ces soldats au service de la France pour combler, pour avoir des effectifs très importants. Et c'est aussi, deuxième moniteur, c'est le moment où, après les accords d'Évian, au moment de l'indépendance, de montrer le désarroi. Donc il y a un reportage assez fort de désarroi de ces hommes qui se retrouvent pour la plupart seuls, abandonnés, et qui se posent des questions sur leur sort, avec lucidité et même avec fierté. Ils ne comprennent pas pourquoi maintenant ils en sont rendus à être, pour certains, être abandonnés, parce qu'il faut une grande partie quand même de ces harkis vont regagner la France, même si des ordres officiels interdiront aux officiers de faire venir des harkis en France. Beaucoup resteront en Algérie et pour la plupart, quels sont ils auront. Donc il y a beaucoup d'harkis qui ont été massacrés. Et pour nous, c'était important de l'évoquer parce que aussi, c'est une blessure qui reste toujours ouverte depuis la fin de la guerre jusqu'à nos jours. C'est cet abandon d'une partie de ces harkis qui ont servi la France pendant la guerre.
On vient de voir en faisant ce tour de l'exposition que les différents acteurs de la guerre d'Algérie ont un sentiment d'injustice pour certaines communautés qui se reconnaissent comme à travers par exemple la communauté pied-noir ou la communauté harki. Et on a eu de lourds problèmes d'interprétation entre l'histoire et la mémoire, entre l'histoire et les mémoires, surtout sur le sujet de la guerre d'Algérie. Et l'exposition se termine sur une sorte de petit panthéon offert aux différentes mémoires. C'est pas très commun de faire une exposition historique qui s'achève sur les mémoires. Et sur cette question des mémoires qui est en fait le sujet qui peut faire polémique et qui barre un peu le chemin vers l'histoire, vers l'accessibilité. Alors, pourquoi avez-vous justement laissé une porte ouverte aux mémoires et fini l'expo sur les mémoires ?
C'était un souhait du directeur du musée de l'armée, le général Baptiste, souhait qu'on a exaucé, avec lequel on était d'accord. Au départ, on voulait ne pas parler de la mémoire, parce que c'est quelque chose qui est fort, qui marque encore et qui empêche parfois l'histoire de se construire de manière sereine.
Elle peut l'empêcher.
En fin de compte, on s'est dit, non, c'est important, parce que déjà, l'histoire se construit en partie avec la mémoire. Alors, on ne l'a pas, c'est pour ça qu'on l'a mis tout à la fin, on l'a séparé par une cimette pour bien montrer qu'on sort du champ historique, mais parce qu'on ne voulait pas l'intégrer dans le champ historique, mais on l'aborde parce que ça fait partie aussi de cette histoire, et que c'est l'histoire en construction, et que la mémoire est encore forte, d'où la difficulté de parfois de trouver une histoire qui soit acceptée par tous. Donc de bien rappeler que la mémoire pèse encore sur la construction de l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est aussi faire témoigner, parce qu'on est resté quand même du début jusqu'à la fin, fidèle à notre fil conducteur qui est l'histoire militaire. Donc on ne fait intervenir que des anciens appelés, que des anciens officiers de réserve.
Alors parmi ce champ de la mémoire qui...
Voilà, c'est la mémoire combattante, essentiellement autour donc des anciens combattants français et algériens qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie, donc soit des officiers d'active, soit des officiers de réserve, soit des simples soldats engagés ou des appelés. C'est aussi l'intervention d'un harki, on n'a pas pu en avoir plus, c'est dommage, on aurait souhaité avoir plus de témoignages de harki, mais c'est compliqué. Les obtenir, et aussi la volonté de, à travers deux témoignages d'anciens cadres de la LN et du FLN, un ancien officier de la LN et un ancien cadre politique du FLN, aussi de donner la parole à ces combattants qui se sont opposés
À
l'armée française. Donc voilà, on leur a posé à chacun les 5 questions identiques, où ils étaient pendant les événements, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel est l'événement qui les a le plus marqués pendant leur présence en Algérie. Est-ce que pour eux, l'Algérie française avait une signification, le combat pour l'Algérie française avait une signification ? Et aussi, qu'est-ce qu'ils en ont retenu aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants ? Voilà, donc ces questions qui sont à la fois posées pour les combattants français, pour les combattants algériens. Et donc on a cette séquence qui ferme sans la fermer, mais qui montre bien que la mémoire est quand même très forte. Donc ces gens-là s'expriment sans contrainte. Donc ils relatent leurs expériences, mais c'était important.
Donc là, c'est paradoxalement pour ça ne montre pas que ça fait barrage à l'histoire, mais que ça existe, que c'est là. Ça peut faire barrage, mais vous avez souhaité donc la présence de cet espace pour...
Pour montrer que ça fait partie de cette histoire et que, en fait, cette mémoire est présente, très présente dans la construction du discours, dans l'histoire de cette guerre, parce que les témoins sont encore en vie. Et
Ils ont encore des choses à livrer.
Ils ont encore des choses à livrer, ils n'osent pas les dire, ils ne sont pas forcément très prolixes en parole, ils sont retenus. En plus, c'était aussi de donner à ces anciens combattants un petit peu leur regard, qui peut être différent de celui de l'histoire, parce que chacun voit à travers son expérience une part de l'histoire ou l'histoire globale de l'Algérie. Voilà, donc c'était intéressant d'avoir ces témoignages.
Merci, colonel Bertrand, pour cet éclairage sur le temps long de l'Algérie et de la France et de la présence militaire française en Algérie de 1830 à 1962. Merci beaucoup. Algérie 1830-1962, c'est le titre de l'exposition du Musée de l'Armée à l'Hôtel National des Invalides à Paris, qui se déroule du 16 mai au 29 juillet 2012. Vous pouvez également trouver un catalogue de cette exposition. Et cette exposition est également accompagnée des dessins de Jacques Ferrandez, grand dessinateur de la bande dessinée française.